Aujourd'hui, à rencontre, un des plus importants penseurs du Québec, Fernand Dumont, directeur de l'Institut québécois de la culture et professeur à l'Université Laval. Fernand Dumont, vous êtes venu à cette émission Rencontre en 1972 et vous parliez de vos rêves personnels et des rêves collectifs auxquels vous vous associez. On parle aujourd'hui de la fin des rêves. Est-ce que vous le vivez comme ça?
Oui, comme tout le monde, je pense bien. Sauf que peut-être il faut ajouter à cette espèce de diagnostic une réserve, c'est que c'est pas la première fois qu'au Québec on vit la fin des rêves. Dans le fond, 1960, c'était le commencement officiel, disons, de nouveaux rêves, que ce soit l'indépendantisme, que ce soit le discours syndicaliste, enfin, tous les discours et toutes les utopies que nous avons connues. Mais il y avait eu bien d'autres rêves avant ça. Nous sommes comme une sorte de société rêveuse depuis le début. Hein, quand on pense, par exemple, aux utopies ou aux idéologies des années 1840-1850, c'est absolument extraordinaire. Est-ce que c'est une compensation, le fait de rêver dans notre société par rapport à une situation qui n'est guère acceptable dans la réalité? Est-ce que, donc, il faut recommencer sans cesse à rêver avec des rêves nouveaux, qui s'usent d'ailleurs par conséquent peut-être très vite? Ben, c'est peut-être une première façon de voir les choses. Mais ce qui est certain, c'est que non seulement, je dirais, depuis les années 75-76, les rêves les plus importants des années 60 meurent à mesure, oui, dans tous les secteurs, mais aussi que cette période des années 60 qui a été si féconde en discours...
Et en réalisation.
Réalisation, oui. Peut-être des réalisations précaires. Il y a quelque chose de curieux dans l'évolution sociale que les sociologues, d'ailleurs, parviennent difficilement à dire parce que nos méthodes, je pense bien, et même nos théories, nos concepts, ne sont pas capables de cerner des réalités aussi fines, c'est-à-dire, au fond, des réalités aussi profondes. À savoir que on a l'impression parfois qu'il y a une société qui officiellement se construit, qui est une société nouvelle. C'est l'impression que nous avons eue depuis les années 60. On avait l'impression que on avait liquidé le passé, ce qui était effectivement ridicule, évidemment, on ne liquide pas le passé comme ça en histoire, et que nous allions construire volontairement, avec des plans dans tous les secteurs, nous allions construire une société nouvelle. Alors, c'est très curieux, pendant qu'on construisait ainsi, officiellement, pour ainsi dire, cette société, c'est comme si c'était dessiné par en dessous une autre société, aussi complète que celle-là, mais silencieuse, et que c'est celle-là qui ressort maintenant à la surface et dans laquelle nous ne nous reconnaissons évidemment pas. Oui. Hein? C'est curieux, ce phénomène. Ça ressemble au phénomène de l'évolution des langues. Hein? Les langues restent très semblables si elles avaient une unique structure d'ensemble. C'est parce qu'au fond, nous parlons deux langues en même temps que subitement, tiens, il se produit une sorte de changement. Les sociétés, je crois, sont comme ça.
Oui. Donc, si on suit votre raisonnement dans cette perspective-là, vous ne considérez pas que le Québec s'est déchristianisé? Parce que c'était le souterrain, quand même, ça.
Oui. Je pense que ça serait résumé un petit peu, vraiment trop sommairement, ce qui s'est passé dans les années... On dit toujours les années 60, disons les années... après la guerre, moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de décisif, là. Parce qu'il y a eu quelque chose de décisif, non seulement sur le terrain des idéologies, c'est-à-dire des grandes doctrines, des systèmes, des représentations, là, un petit peu objectives de la société... Mais après tout, sur le terrain de la littérature, de l'art, de la poésie, etc., il y a eu là une espèce de mutation où le christianisme, qui représentait la figure officielle de la société, ça a été à la fois son avantage et son inconvénient. C'est très beau de représenter la symbolique d'une société, mais c'est risqué, parce que quand cette société change, évidemment, la symbolique risque de s'effondrer. Je crois que c'est ça qui s'est produit. Autrement dit, ce que nous avons récusé du christianisme, quand je dis « nous », je parle de la collectivité, à partir des années 60, c'est bien plus une sorte de figure d'ensemble du passé québécois, d'ailleurs assez caricatural, à mon avis, que le christianisme lui-même. Puisque, après avoir apparemment aussi vite laissé de côté une foi...
On est retombé dans une autre.
Ben oui, il n'y a pas eu une période aussi féconde en foi, je dirais, en prenant le mot dans un sens général, que cette période des années 60 jusqu'à, disons, 75. Quoi. Oui.
Mais il y a beaucoup de gens qui se sont fait illusion, et parmi ces gens-là, des intellectuels, et parmi ces intellectuels, des sociologues qui écrivaient abondamment que c'était terminé, qu'on venait de liquider quelque chose. Oui, comment a-t-on pu parler aussi légèrement, au fond, de ce qui est le plus profond de ce que l'on est?
Il y a là quelque chose d'inévitable. Il y a là quelque chose d'inévitable parce que du moment où la symbolique chrétienne, comme je disais tout à l'heure, était devenue une sorte de figure officielle de notre société, elle en acquérait par le fait même, je le disais aussi, une espèce de vulnérabilité. Hein? Il n'y a rien de pire pour la foi que d'être à la surface. La foi, c'est fait pour la profondeur. Alors, du moment où cette figure officielle de la société était remise en question, la foi se trouvait aussi remise en cause. D'autre part, après avoir vécu pendant si longtemps, au moins pendant un siècle, n'exagérons pas quand même, pendant un siècle, sur des positions de défense, et par conséquent aussi sur des réactions systématiques, hein, un peuple constamment menacé, petit, a toujours besoin d'avoir devant lui une figure certaine de ce qu'il est, mais c'est dangereux parce que l'esprit de système menace constamment. La foi est passée là-dedans, si je parle cette fois-ci de la foi religieuse. Donc, elle s'est trouvée compromise. Sont nées de nouvelles fois. Mais, vous savez, on n'invente pas des religions dans 10 ans ou dans 15 ans.
Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Quand on invente des religions trop rapidement, ça s'appelle des sectes. Et on sait ce que ça veut dire, le débordement possible après.
Surtout quand ce sont des sectes sans transcendance. Parce que la religion se suppose la transcendance. Même une religion comme la religion catholique, par exemple, qui a été si profondément immergée dans la part des sociétés, en particulier de la nôtre, il y a quand même toujours eu cette espèce de référence à la transcendance qui fait que les sociétés ne sont pas jugées simplement à partir de leur mécanisme, mais qu'elles sont jugées à partir de ce qui les dépasse. Oui. Les individus aussi, d'ailleurs. Avoir la foi, à mon avis, c'est ça. C'est se sentir jugé par autre chose que ce qu'on est personnellement, c'est-à-dire se référer à une sorte de dépassement qui fait que, sans doute, on se voit plus en profondeur et qu'on envisage aussi plus en profondeur son destin. Ça, c'est vrai des personnes et c'est vrai des sociétés.
Oui. Au moment où on a liquidé cette foi-là, il y a eu évidemment tout le courant anticlérical qui allait avec, forcément.
Oui.
On a l'impression maintenant d'une sorte de réhabilitation des clercs. On n'entend plus ce discours. Ce discours-là, d'abord, a disparu. Et maintenant, je ne sais pas si vous allez répondre à ma question, est-ce que c'est parce qu'on a oublié, parce que c'est un peu loin de nous, qu'on a l'impression d'une réhabilitation du rôle du clergé?
Ben, ça demanderait plusieurs éléments de réponse. La première, je pense, c'est que pour que ces nouveaux discours des années 60 se constituent, il fallait qu'ils le fassent par opposition, bien sûr. Alors, ils ont donc construit une sorte de contre-discours, c'est-à-dire vous avez eu une représentation, à mon avis, parfaitement caricaturale du passé québécois et du rôle que l'Église y a joué. Du moment où ces nouveaux discours, à leur tour, sont remis en question, ne sont plus croyables, hein, que ce soit le discours indépendantiste, que ce soit le discours syndicaliste, que ce soit n'importe quel discours, nous assistons à une sorte de crise de la foi, mais cette fois-ci, elle n'est plus religieuse, elle est chercher la foi en quoi que ce soit. Bon. À ce moment-là, c'est sûr que l'ancienne foi, qui n'a jamais cessé de subsister, que l'ancienne foi ne provoque plus ces oppositions, ces caricatures de clercs, de sœurs, etc. Ben, c'est bien sûr, ça n'a plus de signification maintenant, puisque les nouveaux discours eux-mêmes ont bien du mal à se défendre. Alors peut-être que par-dessous va ressurgir, j'en suis pas sûr, mais va ressurgir le questionnement religieux, que je dirais tout nu, quoi. Le questionnement religieux, c'est-à-dire pas la résurrection du concile, du catéchisme du Concile de Trente ou du petit catéchisme de la province de Québec. Nous allons oublier, je pense, moi, les sœurs, les prêtres du passé, qui est à les retrouver peut-être dans 20 ans, en rajeunis ou dans 30 ans, mais peu importe. Pour l'instant, nous assistons à une sorte de dénuement, quoi, de la foi. Et cette fois-ci, il ne s'agit plus simplement du dénuement de la foi chrétienne des années 60. Il s'agit du dénuement de toute foi.
Oui. Vous êtes resté chrétien, catholique, pratiquant au moment où d'autres, et parmi vos amis, je suppose, et parmi vos collègues, laissaient tomber tout ça. À ce moment-là, vous avez dû vous sentir un peu presque minoritaire.
Oui.
Quelle est la perception qu'on a maintenant de vous? Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous vous sentez différent comme catholique qui s'affiche de ce que vous étiez il y a 15 ans à peu près.
Non, à première vue, je dirais que ça n'a pas changé. Non pas dans le sens où, disons, on se moquerait de moi parce que je continue d'être pratiquant. Là, là.
Mais un c'est, temps, c'est c'était ça. Un
oui,
temps,
oui.
c'était ça.
Oui, mais si c'est, on... c'est pas ça que j'ai trouvé le plus difficile. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que... C'est qu'à chaque messe du dimanche, de voir vieillir l'assistance. Hein. Il y a encore des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. C'est de voir aussi vieillir le langage, c'est-à-dire qu'après, que voulez-vous? Quand ceux qui font la prédication sont tous d'une certaine génération, d'un certain âge, on ne peut pas leur reprocher d'ailleurs, et d'ailleurs s'ils essayaient de se rajeunir artificiellement.
Ce serait faux. D'ailleurs, certains ont essayé.
Oui, et quand il s'agit de la transmission de la foi ou du témoignage de la foi, c'est particulièrement ridicule, de se maquiller. Mais c'est ça qui est le plus tragique, à mon avis. C'est ça qui est le plus tragique. Et ça continue d'être tragique. Parce que moi, ça m'a jamais inquiété, le fait de me trouver souvent, surtout, disons, dans les milieux intellectuels, de me trouver en minorité, non seulement en tant que croyant, mais en tant que pratiquant, non? C'est plutôt dans mon église où je me sens un peu mal à l'aise, non pas dans le sens où j'ai à la critiquer, si vous voulez, mais dans le sens où je la sens de plus en plus marginale.
Oui, mais ma question n'était pas tout à fait... Ça, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas plus de tolérance de la part des gens qui ne sont plus croyants face à vous qui êtes tolérants? Et en ce sens-là, est-ce qu'eux ne sont pas habités de cette interrogation dont vous parliez?
J'allais vous dire que moi, j'aime pas beaucoup la tolérance, c'est-à-dire la tolérance prise dans un certain sens. Il y a une forme de tolérance, comme il y a une forme de pluralisme, d'ailleurs, qui consiste à respecter les autres parce qu'on s'y intéresse pas.
C'est-à-dire ça, c'est l'indifférence.
Oui, mais souvent, il n'y a pas beaucoup...
Il n'y a pas beaucoup de différence.
Ah oui, il y a un certain idéal social qu'on met sous le nom de tolérance, de pluralisme, qui revient un petit peu à ça. Hein. C'est-à-dire, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais c'est parce qu'on ne s'intéresse pas, on ne se préoccupe pas, au fond, de la question qu'en tant que personne, il pose parce qu'il adhère, disons, par exemple, à la foi chrétienne. Donc, en un certain sens, le fait qu'on n'en parle à peu près plus jamais, moi, je pense à... Je sais pas, j'ai des amis... On a beaucoup des amis qui sont incroyants. On en parle moins qu'on en parlait il y a 10 ans, et j'avoue que c'est ça qui m'inquiète un peu. J'aime mieux me sentir questionné, interrogé, remis en question, parce qu'à mon avis, c'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose de... Pour ainsi dire, c'est une sorte de mystère qu'on porte en soi, que soi-même, dont on n'est pas tout à fait sûr, qu'on n'approfondit pas, parce que c'est ça qui nous fait vivre et qui nous dépasse, par définition. Et par conséquent... Comme on y tient beaucoup comme à une chose fragile, on aime bien que les autres en reconnaissent la présence, que ça les inquiète, quitte à ce qui se moque un peu, parce que l'humour, c'est une bonne forme d'interrogation.
Oui. Donc, vous ne sentez pas, et vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas sûr qu'un jour, il y aurait de nouveau des interrogations sur la foi. Donc, vous ne sentez pas ça autour de vous actuellement?
Non. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'interrogations sur la foi chrétienne. Enfin, chez les jeunes, je pense à mes étudiants ou à d'autres, je ne crois pas qu'il y ait d'interrogations qui portent, disons, beaucoup directement sur la foi chrétienne. Mais il y a de plus en plus une interrogation sur la foi. Ce que je veux dire par la foi, c'est ceci. Y a-t-il dans l'existence que nous menons collectivement, soit comme personne, soit comme collectivité, un lieu d'interrogation, un espace d'interrogation que personne ne pourra réduire, soit à la planification économique, soit aux idéologies du Parti québécois, du Parti libéral, de la CSN ou de la FTQ, ou comme vous voudrez. Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être apprivoisé, domestiqué, par les discours officiels? Autrement dit...
Est-ce qu'il y a la zone de mystère?
Oui, mais est-ce qu'il y a une zone de mystère qui fait, à mon avis, et là, je parle comme un sociologue marginal, est-ce qu'il y a une zone de mystère qui fait que les sociétés sont vraiment des sociétés? C'est-à-dire que les hommes, ils construisent ensemble des relations réciproques, mais par référence à quelque chose qui les dépasse. Peu importe, à première vue, la figure que prend ce dépassement-là. En ce sens-là, la foi, c'est le soubassement et des personnes et des sociétés. Les Grecs, qui n'étaient pas d'emblée des chrétiens, avaient très bien senti ça. Quand ils parlaient de la cité, ils parlaient de la cité par rapport à deux choses. C'est un mode de relation entre les personnes, mais par rapport à la vérité. Hein? Par rapport à la vérité. Ce qui suppose qu'on croit à la vérité, c'est qu'on croit à cette recherche indéfinie de la vérité qui dépasse, encore une fois, la simple relation fonctionnelle entre les personnes. il y a de grands philosophes contemporains, Husserl en particulier, qui s'est demandé si on avait perdu, si on avait encore envie de chercher ça ensemble. Mais moi, je trouve que, de ce point de vue-là, le drame du Québec depuis 15 ans, c'est extrêmement intéressant. C'est pas un drame indigène. Ça représente, comme dans une sorte de microcosme, ce que bien d'autres sociétés contemporaines vivent, mais sont pas capables de dire, je dirais, avec autant de naïveté que nous.
Mais pourquoi faut-il toujours vivre les choses en laboratoire, ici? Parce qu'on en paie le prix, aussi.
Oui.
Il y a des traumatismes collectifs que vivent les personnes, aussi. Pourquoi aurait-on un destin d'être un laboratoire pour tout le monde?
Ben, vous savez, les sociétés occidentales, pas seulement le Québec, les sociétés occidentales modernes sont des sociétés expérimentales.
Oui, mais les vieilles sociétés font beaucoup plus attention, ne font pas du tout les changements de la même façon.
C'est le prix que nous payons pour avoir voulu transformer comme ça nos sociétés, chambarder des choses, changer complètement l'exercice des pouvoirs, mettre en cause l'autorité, c'est un bon côté, mais c'était le prix à payer. C'est-à-dire que très souvent, nous mettre un tas de choses par terre, bouleverser la maison, refaire le ménage, c'est relativement facile. Se retrouver à travers ça, savoir pourquoi on a fait ça. Qu'est-ce qu'on cherchait à travers ça? Je pense que...
Il y a des générations qui passent pendant que ça se passe et à qui on ne donne rien.
Et qui sont des générations perdues. Et qui sont des générations perdues, c'est sûr. Qui sont des générations perdues. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Étant donné que la vie humaine est relativement courte, on se retrouve, je connais beaucoup de gens qui en sont rendus là, qui ont tout chambardé dans leur existence et qui ont contribué à chambarder beaucoup de choses dans nos sociétés et qui commencent à se demander, mais pourquoi au juste ils se sont engagés dans cette voie? Ils ne le regrettent pas nécessairement, mais qui se demandent en somme, est-ce que nous nous sommes aliénés, délégués, perdus dans toutes ces transformations?
Est-ce qu'à la recherche de notre identité, la manière dont on l'a fait, on n'a pas perdu une partie importante de notre identité?
Moi, j'en suis absolument certain. Et en ce sens-là, la collectivité québécoise se trouve actuellement dans une situation extrêmement tragique. Moi, ce qui m'inquiète, d'abord, ça m'inquiète aussi, mais ce qui m'inquiète, d'abord, ce n'est pas... les transformations des discours idéologiques, y compris le discours de l'indépendance. Ce qui m'inquiète d'abord, c'est cette espèce d'essoufflement d'un grand nombre de personnes qui ont l'impression de s'être perdues en cours de route et de ne plus être capables de croire, non pas nécessairement à ceci ou à cela, mais de croire, tout simplement. C'est-à-dire de vouer encore leur vie à quelque chose qui les dépasse.
Est-ce que c'est ce qui vous apparaît le plus grave à l'heure actuelle?
Oui, en effet. Oui.
Et on le retrouve chez les jeunes, ça aussi?
Surtout que les jeunes, ils ont souvent, malgré ce qu'on a appelé la crise de l'autorité, qui me fait rire beaucoup, moi, les jeunes, ils ont cru beaucoup aux nouvelles autorités, c'est-à-dire à tous ces dogmes nouveaux qui ont remplacé les anciens. Et la plupart d'entre eux se trouvent devant, effectivement, ce que j'appelle, moi, le vide absolu. J'insiste, le vide, ça consiste pas à dire « cela n'est plus croyable » ou « telle autre chose n'est plus croyable ». Ça consiste à dire « est-ce que je suis encore capable de croire à quelque chose ?»
Oui. Et justement, en ce sens-là, les générations, les nouvelles générations, sont différentes de celles du passé qui ont toujours cru à quelque chose. Jusqu'à la génération que je représente, la génération des gens qui viennent d'avoir 40 ans, qui ont cru au nationalisme d'une façon ou d'une autre.
Ça, on en a un signe, je dirais, certain, point de vue historique. C'est quand on regarde la série des générations au Québec, depuis, je dirais, un siècle. À chaque génération, vous avez toujours eu un mouvement de jeunesse. Quand je dis un mouvement de jeunesse, je ne veux pas dire une association. Ça peut être plusieurs associations, mais chaque jeunesse a exprimé à son tour les ambitions de sa génération. C'est ce que la mienne a fait aussi, mais ce n'est pas nouveau. Les jeunes Canada ont fait la même chose en 1930, et puis on remonte dans le passé et on trouve toujours ça. Or, nous sommes maintenant devant une jeunesse silencieuse. Silencieuse parce qu'elle est éclatée, effectivement. Et parce qu'aussi, elle cherche plus en profondeur, peut-être que nous, à cet âge-là, réponse à des questions fondamentales. C'est-à-dire, après tout, nous, je dirais, nos questions restaient relativement superficielles. C'était l'enthousiasme de la jeunesse. Nous allions faire mieux que la génération précédente. En ce sens-là, on n'innovait pas, évidemment, depuis le début de l'histoire. Chaque jeune génération veut faire la même chose. Mais cette génération-ci, ce qu'elle vit, c'est une sorte de drame, si on craignait pas d'utiliser des mots abstraits, une sorte de drame métaphysique. Hein? Mm. C'est en lisant Dostoïevski qu'on peut mieux la comprendre. Et en ce sens-là, c'est, ça a l'air tragique de dire ça, moi qui ne suis plus jeune, mais il reste que ce qu'ils vivent, et qui est extrêmement plus douloureux que ce que nous avons vécu, c'est peut-être plus authentique et plus important. Maintenant, est-ce qu'il y a une sortie possible de là? Est-ce que c'est la grande question?
Oui. Notre société a été iconoclaste. On n'a pas voulu de modèle et on n'a pas voulu de maître. Est-ce que c'est possible de vivre sans modèle et sans maître?
Non, c'est pas possible parce que, d'abord, ce que nous appelons des valeurs, ce sont quand même pas des feux follets qui se promènent au-dessus
de nous
comme des papillons ou des feux follets, justement, à l'été. Les valeurs, on les voit toujours soit à travers des institutions, soit à travers des personnes. Alors, si les institutions n'ont plus aucune consistance, et si les
Est-ce
personnes...
Est-ce que vous le croyez?
Pour une part, oui. C'est-à-dire que de plus en plus, je crois, nous allons voir les institutions, particulièrement ici, mais ça ne m'étonnerait pas que, par exemple, en France, ça soit un peu la même chose. Nous allons les voir comme de purs mécanismes sociaux, quoi. C'est-à-dire des choses utiles.
La plomberie.
Oui, c'est ça. Des choses utiles, mais qui ne nous concernent pas dans le fond même de notre existence. Et peut-être que les personnes, nous allons aussi les voir de plus en plus comme ça. Il n'y a plus ce qu'on pourrait appeler des autorités, si c'est un mot d'ailleurs qui est fané depuis longtemps, mais autorité, dans le fond, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quelqu'un qui, de par sa personne, incarnait des valeurs qui autrement auraient été abstraites. Alors ça n'existe plus. Moi, je me dis, je pense que j'insulte personne en disant si je fais la revue des hommes politiques ou des autres, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Je crois que ça n'existe plus.
Mais
ça me paraît très, très grave.
Oui. Et est-ce que ce n'est pas dangereux dans la mesure où dans ce vide-là, c'est là que les démagogues peuvent prendre naissance?
Oui, parce que les démagogues profitent à la fois du vide et de l'abstraction. Le vide produit l'abstraction.
Exactement la situation dans laquelle sont les jeunes.
Oui, effectivement. Effectivement. Parce que ce qui peut se transmettre entre générations, ce qui peut incarner des valeurs, c'est toujours par le témoignage. Enfin, que ce soit le témoignage d'un professeur qu'on a eu à un moment donné, ou que ce soit le témoignage d'un ami dans une circonstance particulière où on n'attendait même pas le témoignage en question. Ça, c'est vrai non seulement de la foi au sens, disons, religieux du terme, c'est vrai de la foi au sens le plus large, c'est-à-dire dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire je peux vouer ma vie à quelque chose.
Oui. Hein.
Ce sont les autres qui nous montrent que c'est possible. Il n'y a pas de démonstration arithmétique. Et s'il fallait qu'on vive dans une société où toutes les institutions seraient simplement des mécanismes, mais où pourrions-nous trouver cette vitalité intérieure qui fait que nous pouvons, encore une fois, nous vouer à quelque chose ou rester sur le bord de la route pour regarder passer l'histoire.
Oui. Est-ce que dans cette société à la fois éclatée, en plus une société qui est de plus en plus publique, est-ce que l'intimité est suffisamment protégée?
En un sens, oui. En tout cas, vous le savez, on parle toujours du refuge des gens dans la vie privée. Moi, j'entends souvent dire ça.
La vie privée qui est racontée publiquement partout, à travers les médias, on entend des choses...
Oui, mais ça, c'est une deuxième étape, je dirais, de l'évolution historique. Vous avez eu une première étape où il y a eu cette dissociation entre le public et le privé. C'est-à-dire, il y a des choses qui concernaient la grande histoire, puis il y a des choses qui devaient concerner l'histoire intime, l'histoire personnelle. Et la deuxième étape, je dirais, c'est qu'on a colonisé le privé, c'est-à-dire le public a colonisé le privé, c'est-à-dire que vous ouvrez un magazine ou vous regardez de temps en temps la télévision, vous avez l'impression que vous voyez votre vie privée, c'est-à-dire, pensez simplement aux feuilletons qui passent à la télévision, ce sont en général des récits de la vie privée qui confinent parfois d'ailleurs au bavardage de cuisine autour d'une tasse de café, madame une telle s'interroge sur l'autre madame, etc. On en est rendu à cette étape de la représentation publique de la vie privée, pour ainsi dire, et par conséquent à cette espèce de destruction de ce qui constituait, à tort ou à raison, une sorte de refuge contre les grands mouvements de l'histoire, où au moins on pouvait s'interroger en ayant le sentiment, comme Pascal, hein, « moi et mon Dieu », mettez ce que vous voudrez sous le mot « Dieu », mais cette espèce d'intimité profonde qui donnait l'impression à l'individu qu'il pouvait se garantir ainsi du plus vaste monde et des plus grands événements. Et maintenant, c'est sûr qu'on, comme vous le suggérez, qu'on en est dans une étape où ce petit monde renfermé, caché, est aussi dévasté et mis à nu, lui aussi, hein.
Oui. Ces propos-là ne sont pas très réjouissants, mais enfin, c'est le constat que vous en faites. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de retrouver, de faire le lien avec une sorte de spiritualité qui a été un ciment pour toute notre société?
Oui. Pour ça, il va falloir dépoussiérer ce qu'on entend par spiritualité. Hein? Vous avez dû être, de quelque façon, élevé dans le même milieu et le même langage que le mien. Souvent, la spiritualité, c'est une espèce de milieu un petit peu éthéré où on accédait en laissant les choses fâcheuses de la vie quotidienne, les incertitudes de la vie quotidienne.
On ne parle pas de celle-là, bien sûr.
Non. Et alors, c'est une sorte de... C'était, je crois, dans bien des cas, une sorte d'aliénation. C'est-à-dire, ce monde-ci est contradictoire. Nous vivons... Les sociétés, comme les individus, vivent dans le drame. Alors, il n'y aurait pas un autre univers où on pourrait accéder, où enfin on retrouverait une certaine pureté des intentions, de la bonne volonté, etc. Presque tous les mots ont été piégés dans cette spiritualité-là. Alors, redécouvrir la spiritualité, donc ça voudrait dire, à mon avis, d'abord dépoussiérer tout ça, c'est-à-dire descendre du grenier, en somme. Hein,
mais il me semble que ça a été fait depuis, on a fait que ça depuis 20 ans.
Oui, mais je pense qu'on a abandonné l'intention avec les oripeaux, quoi. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, spiritualité, dans le fond? Ça veut dire retrouver la profondeur des questionnements que nous devons nous poser sur notre vie personnelle et sur la vie collective. Et ça veut donc dire remettre en cause les langages tout faits, y compris ceux de la spiritualité, les idéologies toutes faites, les discours préfabriqués, et les pseudo-autorités qui continuent encore de les supporter, parce que les autorités, non seulement les idéologies vieillissent au Québec, mais les autorités aussi. Hein?
Bon. En changeant de masque, parfois.
Oui, en changeant de masque. Oui, parfois. Alors, ça consiste à remettre tout ça en cause et, je dirais, à retrouver, c'est ce que nous avons perdu dès les années 60, me semble-t-il, une sorte de jeunesse du questionnement, de jeunesse de l'interrogation et de courage de l'interrogation aussi. Peut-être que dans les années 60, nous avions rejeté une religion qui nous apparaissait trop systématique, trop tranquille, mais peut-être avons-nous voulu retrouver trop vite des discours également rassurants. Alors, ça prenait sans doute du temps pour qu'on en arrive là, mais maintenant nous voilà, je dirais, dépourvus enfin devant les grandes questions.
Fernand Dumont, je vous remercie de cette entrevue.